Le travail sur la mort, il s'est imposé à moi. C'était, je ne pouvais pas faire autrement. C'était la source noire, je peux dire, c'est le seul bouquin qui réponde aux critères de Rainer Maria Rilke. Rilke, à un moment donné, dans sa lettre, un jeune poète dit « Dans quelle disposition d'âme ?» Vous me demandez dans quelle disposition d'âme il faut être pour écrire ce livre, ben je vous dirais si on vous attrapait, qu'on vous jetait en prison et qu'on vous interdisait à jamais d'écrire ce livre, est-ce que vous en mourriez? Alors, si vous me répondez oui, alors écrivez ce livre, sinon de grâce, épargnez-nous un livre de plus. Et bon, je dirais pas que si on m'avait empêché d'écrire La Source Noire, j'en serais mort, mais je crois que j'en serais tombé malade. Parce qu'il s'imposait à moi que c'était beaucoup plus fort que moi. C'était le livre me demandait, c'était le résultat d'un long cheminement. J'avais eu horriblement peur de la mort pendant des années. J'avais réussi à en sortir d'une manière qui m'était tombée dessus de différentes façons, en rencontrant une femme d'abord, en repassant en alliance avec la nature. Enfin, ça prend des années. Et puis à un moment donné, il y a eu un certain nombre de reportages pour Actuel qui m'ont poussé dans cette enquête sur les NDE. Mais en marche arrière, si vous voulez, j'étais parti pour Actuel pour prouver que les NDE étaient une hallucination. En fait, c'était le contrat avec les copains d'ailleurs, parce qu'on avait trouvé on était tombé sur une recherche américaine qui démontrait que ces fameuses visions proches de la mort, near death experience ou expérience de mort imminente, en fait étaient tout simplement une hallucination due à une sorte d'overdose endogène des neurotransmetteurs. Et nous, on trouvait ça excitant, marrant, de se dire que au moment de mourir, un être humain aurait, de par un système que l'évolution aurait mis au point au fil des millénaires, on aurait tous droit à un flash d'hallucination au dernier moment. Et c'est sur cette base-là que je suis parti aux États-Unis et j'ai été très étonné de ce que j'y ai trouvé aux États-Unis. Les scientifiques qui prétendaient avoir fait découverte sur les neurotransmetteurs n'y connaissaient rien. C'était des gens qui pourtant avaient pignon sur rue, si je puis dire, ou sur faculté. C'était des profs à l'université de Californie, ils étaient experts auprès des tribunaux en matière de drogue, mais ils n'avaient jamais approché un mourant en réalité. Ils supposaient simplement, ils connaissaient bien les effets de certaines drogues, ils avaient entendu parler des NDE et ils avaient fait le rapprochement par analogie en disant on voit bien que c'est la même chose. Et j'étais très déçu parce que il n'y avait pas le matériau que je croyais. J'étais très embêté d'ailleurs parce que c'était mon premier reportage aux États-Unis et ça la foutait mal vis-à-vis de mon journal d'être allé là-bas et de ramener rien du tout. Et face au plus important de ces scientifiques, que je remercierai jamais assez d'ailleurs, Ronald Siegel, qui a écrit plusieurs bouquins d'ailleurs ensuite, j'ai eu un réflexe que tu pourrais avoir de journaliste. Je lui ai dit, mais c'est marrant parce que donc en fait vous n'avez fait aucune recherche sur les mourants, contrairement à ce qu'avait dit la presse, et vous réagissez comme quelqu'un qui donne l'impression d'avoir peur. Et il me dit, moi, peur, mais pourquoi voulez-vous? Et pourtant, si, jeune homme, parce qu'à l'époque je devais avoir j'avais quand même 29 ans. Ouais. Il me dit, et pourtant, il y aurait des raisons d'avoir peur. Il y aurait des raisons. Vous ne vous rendez pas compte en Europe, mais parce que l'Europe, surtout la France, c'est la raison. Vous êtes un pays très éclairé, mais ici, les États-Unis, vous savez, c'est facilement obscurantiste. Les États-Unis, c'est quand même le pays des prédicateurs fous, c'est le pays du Ku Klux Klan, et nous sommes très inquiets, en effet. Nous sommes très inquiets. Il y a une vague d'obscurantisme qui menace la science. Dans les années 60-70, on appelait ça... Dans les années 60, oui, 70, on appelait ça LSD. LSD, and now it's NDE. It's the same stuff. La même le même obscurantisme, le LSD qui a conduit des foules dans des délires pas possibles, maintenant c'est le NDI, mais NDE. Et donc oui, c'est là que j'ai un réflexe de journaliste, parce que je lui dis, ah bon, mais vous dites que l'élite scientifique est touchée par cette vague obscurantiste, est-ce que vous pourriez me donner des noms? Et il me dit, bah, volontiers, et j'y connaissais rien, vraiment, j'avais jamais mis les pieds dans ce monde-là, et il me fait une liste. Et il me dit, alors, la plus grave de toutes, et il me donne un argument d'ailleurs tout de suite bancal, parce qu'il me dit, la plus grave de toutes, et pour vous donner une idée à quel point elle est grave, elle vient d'accorder une interview à Playboy. Or, pour qui connaît le Playboy américain, c'est des interviews géniales. Et donc ça m'a déjà paru un peu bizarre, mais il me dit, ouais, elle s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, elle est totalement branque, ça c'est la plus folle de toutes. Ensuite, il y en a un, il s'appelle Raymond Moody, vous avez déjà entendu parler. Je lui dis non, je connaissais rien. Et ça a été génial parce qu'il m'a donné Raymond Moody, Kenneth Rhys, Michael Sebum, Fred Schoonmaker. Il m'a fait la liste avec tous les endroits où les trouver. Il me dit, allez-y, vous allez voir, ils sont totalement fous. Et Actuel était un journal qui marchait très très bien à l'époque. Donc je me suis payé un génial tour à travers les États-Unis. Et je suis allé voir tous ces gens, pas Kubler-Ross, et ça... C'est là-dessus que je voudrais d'ailleurs ensuite articuler la chose. Parce que je suis allé voir des hommes d'abord. Le hasard a voulu que je tombe sur Moody, qui était en train de finir son internat de médecine à l'époque. C'était un prof de philo qui avait décidé de faire médecine. Il était devenu psychiatre et quand je l'ai rencontré, il était encore interne. Puis Kenneth Ring, peu importe, ils étaient dans différents endroits des États-Unis et j'étais stupéfait. Parce que je tombais sur des gens qui correspondaient à peu près à l'idée que je me faisais de la science, c'est-à-dire des gens qui étaient assez ouverts, curieux, qui a priori prenaient des précautions, mais qui disaient il y a un phénomène, un peu le personnage, vous vous rappelez le personnage que joue Truffaut dans Rencontre du troisième type, cette espèce de savant qui s'appelle Dreyfus dans le film Rencontre du troisième type et qui court de rêveur en rêveur en disant c'est complètement fou, ils font tous le même rêve, qu'est-ce qui se passe, on va faire des profils types, on va étudier ça, il doit y avoir une explication. Et bon, là, dans le cas de Rencontre du troisième type, ça aboutit carrément aux extraterrestres qui débarquent, mais là c'était des savants un peu comme ça, ils disaient c'est complètement dingue, on est tombé sur des données à la fois connues depuis très longtemps, parce que les NDE, on en connaît depuis l'aube de la civilisation, mais il y a quelque chose de tout à fait nouveau et d'incontestable, c'est que c'était rarissime. Quelqu'un qui meurt, dont le cœur s'arrête, et puis qu'il reprend Perceval dans Les Chevaliers de la Table Ronde, je crois que ça lui arrive. Il y en a quelques-uns à qui ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même rarissime. Or, nous, pour la première fois dans l'histoire humaine, nous sommes une civilisation très curieuse, qui a mis au point des systèmes qui rattrapent les gens qui sont en train de partir, comme ça, comme à la fin du film. Je croyais qu'elle allait se noyer, Nicole Kidman. Nous avons mis au point des systèmes qui s'appellent des unités de soins intensifs qui ramènent les gens, qui leur ramènent des millions de gens. Ça, c'est absolument nouveau dans l'histoire, et parmi tous ces gens qu'on ramène, tous les jours, c'est en gros le feuilleton urgence, quoi. C'est on refait partir le cœur, et parmi les gens qui reviennent, si on sait les interroger correctement, sans leur faire peur, en essayant d'induire le moins de choses possible, on s'aperçoit qu'il y a un pourcentage notable qui ramène une expérience, on ne sait pas ce que c'est, une expérience bizarre, mais en tous les cas. Admettons que ça soit une sorte de rêve, mais c'est un rêve comme on en fait rarement, puisque c'est un rêve dont ils se souviennent 20 ans plus tard comme si c'était la veille, et puis c'est un rêve qui change leur vie, donc des rêves comme ça, donc étudions ces rêves, que 1000 écoles s'épanouissent partout, parce que partout dans le monde il y a des unités de soins intensifs, partout on ranime des gens, et donc etc, etc. Là, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent ce thème. Et pourquoi c'est devenu un livre pour moi? Parce que c'était une série de reportages que j'ai fait pour Actuel en 80, 81, 82. Et puis, à un moment donné, tout d'un coup, quelque chose s'est passé où je me suis rendu compte que j'étais entré dans un théâtre, mais comme je vous disais, à reculons, parce que j'y étais poussé, contraint et forcé, parce que je pensais que j'allais aux États-Unis pour prouver que tout ça c'était des hallucinations, puis finalement, est-ce que c'en était vraiment, c'était pas sûr. Mais surtout, je m'apercevais que j'étais entré dans ce théâtre par l'acte 2, je dirais, qui est un acte masculin. C'était que des hommes que je voyais, Moody et tous les autres, c'est presque toujours des hommes, qui sont dans la spéculation, et puis qui sont dans un mode assez ludique, je dirais. Ils étaient tous excités comme des poux par ce qu'ils trouvaient, en disant on ne conclut rien, on ne conclut rien. En réalité, je voyais bien qu'à un moment donné, je l'avais dit à Moody, je lui dis arrêtez de me dire que vous ne concluez rien, je vois bien que dans ce que vous écrivez, etc., en gros, vous pensez avoir prouvé la vie après la mort. Alors il disait c'est une hypothèse, mais supposons que ça soit vrai. Supposons que ça soit vrai, il n'y aurait aucune raison de ne pas se réjouir. Maintenant, c'est peut-être faux. Alors, si c'est faux, bon, à la limite, c'est pas grave. Effectivement, dans une des hypothèses, c'est vrai, et je me réjouis à l'idée qu'il y a une hypothèse extrêmement intéressante. En gros, c'était comme des sortes d'enfants, mais que je ne parvenais pas à coincer sur le plan de la raison pure, dans la mesure où c'était des faits. Ils allaient interroger des gens, il y en a des millions, ces gens ont eu leur vie extrêmement bouleversée, et ça va plutôt... La plupart croient par exemple à la réincarnation, pour essayer de raccrocher un peu, mais tout en disant, ça c'était un des paradoxes forts, ils disaient, depuis que j'ai vécu, enfin la plupart, hein, parce que là j'y vais vite, il y en a des millions, et en réalité il n'y a pas deux cas pareils, mais si on fait des profils types, puisqu'on est bien obligé de faire des profils types pour essayer d'y comprendre quelque chose, dans le profil type la majorité dit oui, moi en fait j'aurais plutôt tendance à croire à la réincarnation, mais ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Et alors c'est quoi? Ah ben, je ne peux pas vous l'expliquer. Et il y avait beaucoup de choses qui tournaient en général, ils commençaient par vous dire. Et quand c'est par exemple quand c'est un gros camionneur américain de Chicago qui vous le dit dans sa cuisine en se mettant à pleurer très vite, une histoire qui lui est arrivée 20 ans avant, et qui pleure et qui dit mais attendez, c'est des larmes de joie, vous savez, mais il n'y a pas de mots, je ne peux pas vous parler. Bon, c'est fort, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, c'est assez costaud.